Vous êtes sur RTL. Direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 7. Cyprien Cini.
Toute l'équipe est là, bien sûr, en studio en ce 9 octobre de cette année 2020. C'est vrai, épisode 7 déjà de cette saison 2. On défait le monde, vous commentez, vous réagissez, le compte Twitter à disposition. Vous avez bien sûr la page Facebook. Toute l'équipe est là, Cyprien Cini, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Céline Landreau, Greg Aumanet. C'est parti pour le sommaire.
C'est le sujet qui fait causer l'apprentissage de l'arabe à l'école entre fantasme et réalité. On démêle le vrai du faux. Dans Défi le Monde ce soir, invité prestige, on accueillera un prix Nobel dans l'équipe, ça nous changera. Jules Hoffmann, Nobel de médecine 2011, nous racontera comment cette récompense bouleverse la vie d'un chercheur. Vous découvrirez également l'identité du loser, du grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, il y a des couleuvres qui sont plus difficiles que d'autres à avaler.
On va parler néonicotinoïdes, un mot difficile à prononcer, surtout pour Barbara Pompili.
Le droit de suite, le billet retour de Brice Dugénie. Vous vous souvenez certainement du hashtag Bring Back Our Girls, un peu plus de 6 ans après, retour au Nigeria.
Oui, les 276 lycéennes enlevées dans la ville de Chibok avaient ému la planète entière.
Vos trois infos pour briller au dîner avec du Van Halen, du Nadal et des animaux. Vos projets les plus fous dans Marche ou Rêve avec une paire de baskets pas comme les autres. Et évidemment, l'inévitable cadeau dont défait le monde avec ce soir un séjour pour 4 au Futuroscope de Poitiers. On défait le monde, saison 2, épisode 7.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On va l'avoir jusqu'à la fin.
On défait le monde dans évidemment. RTL Soir.
Évidemment.
On ne paye pas des droits là-dessus. Il n'y a pas de droits à payer là-dessus. Il faut prévenir la direction assez vite, sinon.
Je suis ultra fan de ce truc-là.
Au passage, on offre des super cadeaux en ce moment. Ah bah ces dernières semaines, des séjours un peu partout.
Ça coïncide avec l'arrivée de Monsieur Cadeau, hein, comme par hasard.
C'est vrai que c'est pas faux. Le surf de la semaine, c'est parti. C'est avec Cyprien Cini à 19h19.
Et cette semaine, alerte polémique maximale, tous aux abris, débat sur l'apprentissage de l'arabe à l'école. On fera le point complet juste après. Mais pour déminer le dossier, Marlène Schiappa, sur CNews, a choisi la preuve par l'exemple.
Vous savez, moi j'ai fait du russe quand j'étais au lycée. C'est pas parce que j'ai fait du russe que je suis devenue une dangereuse communiste.
Oui, pourquoi pas. C'est vrai que moi j'ai fait italien et je ne sais toujours pas faire cuire les pâtes, par exemple. Mais la ministre est même allée encore plus loin dans les exemples, attention.
Vous savez, je crois que Laurent Wauquiez parle arabe. Il a dit à plusieurs reprises qu'il parlait très bien arabe. J'ai pas le sentiment que Laurent Wauquiez soit un dangereux séparatisme.
Et alors là, on dit à Marlène, attention, Laurent Wauquiez parle arabe. Alors c'est vrai, hein, il l'a dit.
Vous savez que ce sont des thèmes que je connais un peu. Je parle arabe, j'ai vécu notamment en Égypte.
Il l'a même démontré il y a 10 ans sur BFM, écoutez.
Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Ce qui veut dire que j'apprends l'arabe et que je l'avais appris avant dans la ville du Caire.
Et là, on est bluffé. Il parle donc vraiment l'arabe. Mais bon, c'est tellement étonnant que en 2016, on lui a quand même reposé la question à Laurent Wauquiez. Et il a répondu.
Ça veut dire
quoi?
Ça veut dire que j'ai appris il y a très longtemps l'arabe au Caire.
Dites donc, ce serait pas exactement la même phrase qu'il est en train de nous ressortir là. Il a exactement dit la même chose, à croire qu'en fait il connaît qu'une phrase. Mais bon, et il y a 2 ans d'ailleurs, on lui a quand même redemandé s'il parlait arabe. Et il a dit quoi, Lolo?
Bien sûr, Daras el Foussef, Imedinet el Kaira.
Oui, bon, ça va, on sait, j'ai appris l'arabe au Caire, tout ça. Bon. Pas certain que Marlène Schiappa ait choisi le meilleur exemple en fait. Hein. Bon, sinon, problème de langue étrangère toujours, l'événement cette semaine c'était encore ici, sur RTL.
This is CNN breaking news.
Mais oui, à l'américaine, car dans la matinale, Alba Ventura a récidivé. Oui, après avoir reçu...
Bonjour Bill Gates, good morning.
Good morning Bill Gates, le mois dernier.
Merci beaucoup Bill Gates, merci.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you very much Bill. Alba a remis ça, donc jingle.
And now, the best Alba Ventura on RTL.
Oui, bah à force, il a fallu faire un jingle. Donc cette semaine...
Bonjour, good morning Oliver Stone.
Good
merci
morning,
d'être avec
Oliver
nous.
Stone. Et donc à ce rythme-là, on va finir à Washington pour l'élection américaine, c'est moi qui vous le dis. Sinon, sur le front du Covid, le virus progresse, mais la médecine aussi, je vous rassure, avec un consensus entre médecins qui commence à se dégager sur ces news, ou pas.
On laisse finir. Laissez-moi finir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez réussir à comprendre.
Alors Martin Blanc,
plutôt que de dire n'importe quoi, et nous au monde travail, plutôt que de dire n'importe quoi comme ce que vous dites en permanence.
Je vous ai dit.
On avance là, on est pas mal. Et Laurence Ferrari, elle est en train de craquer.
Ça suffit maintenant de dire qu'on n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol.
au bout du rouleau, Laurence, comme ces centaines de millions de Français.
Oui, c'est ça, des centaines de millions.
Non, mais au moins, on n'a pas de problème de natalité. Hein, c'est déjà un point positif. Enfin, la cote de popularité d'Edouard Philippe, dit Doudou Philippe ou Doudou pour les intimes, n'en finit pas de crever le plafond. La Doudou mania sans limite, à tel point qu'on était tout perturbés en écoutant le dernier tube d'Aya Nakamura sorti ce matin. Oui, Stéphane, Aya Nakamura, c'est... Dja Dja, vous connaissez.
Ouais.
Et bien, son nouvel opus, c'est plus Dja Dja, c'est Doudou, écoutez.
Aime-moi Doudou, montre-le-moi Doudou, t'es mimi, dis-le-moi Doudou.
C'est quand même un sacré effet sur les Français, ce Doudou, hein, Doudou Philippe. Allez, vivement la semaine prochaine.
Encore des pépites dans le surf de la semaine, signé Cyprien Cini. Merci à vous tous d'être là. On défait le monde jusqu'à 20h, comme tous les vendredis soirs.
On défait le monde sur RTL.
Et on s'arrête tous ensemble sur la grosse info. Ça concerne l'enseignement de l'arabe à l'école.
Oui, c'est un sujet qui a quelque peu électrisé les débats toute la semaine quand Emmanuel Macron a annoncé dans son discours sur le séparatisme.
Il nous faut aussi, et le ministre de l'Éducation nationale, plusieurs reprises, s'est engagé sur ce point. Enseigner davantage la langue arabe à l'école ou dans un périscolaire que nous maîtrisons.
Du coup, Céline, on s'est dit qu'on allait tenter de discerner le vrai du faux, de faire le point précis, exact et clair sur l'enseignement de la langue arabe à l'école. Déjà, concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe?
Alors, d'abord, il faut savoir que c'est très peu enseigné, en primaire notamment. Vous savez que des cours de langues étrangères sont désormais au programme dès le CE1 pour les petits Français. Mais aujourd'hui, pour plus de 97% des élèves, ce sont des cours d'anglais. On estime qu'ils sont moins de 0,2% à suivre des cours d'arabe, derrière l'allemand, l'espagnol et l'italien. En fait, l'arabe est à peu près autant choisi que le portugais. Ensuite, dans le secondaire, l'arabe est proposé dans certains établissements comme langue vivante étrangère, au même titre là encore que l'espagnol, l'allemand ou l'italien. Et d'après le ministère de l'Éducation nationale, moins de 15 000 élèves suivent ces cours. Sur plus de 5,5 millions, ça représente environ 0,25% des effectifs.
Bon, alors ça fait pas beaucoup. Il y a d'autres moyens pour apprendre l'arabe à l'école?
Oui, depuis 1977 existaient les ELCO pour enseignement, langue et culture d'origine. C'est un système qui avait été mis en place un an après l'autorisation du regroupement familial grâce à des partenariats noués avec des pays étrangers qui envoient des professeurs en France pour enseigner leur langue. Des heures d'enseignement en plus du temps scolaire, mais en lien avec les écoles.
Et alors quoi, c'est à ça qu'Emmanuel Macron veut mettre fin?
Oui, le chef de l'État l'a d'ailleurs rappelé lors de son discours contre le séparatisme.
Notre école ne peut en aucun cas faire l'objet d'ingérence étrangère. Nous l'avions constaté, c'est le fameux système des ELCO, des enseignements de langue et culture d'origine, qui conduisait à avoir, sur notre sol, des enseignants qui ne maîtrisaient parfois pas le français, qui prodiguaient un enseignement qui n'était pas conforme aux lois de la République. Un travail a été conduit pour mettre un terme à ce système.
Des enseignants ne parlaient pas toujours français, un contrôle sur le contenu des cours qui était limité. Emmanuel Macron n'est pas le premier à identifier le problème. Dès 2016, Najat Vallaud-Belkacem avait initié la transformation de ses ELCO vers des EILE, des enseignements internationaux aux langues étrangères. Alors au-delà du changement de sigle, ce sont surtout les règles qui évoluent. 1h30 d'enseignement par semaine par des professeurs qui doivent désormais obligatoirement parler le français. Ils sont régulièrement inspectés et le programme est établi conjointement avec l'Éducation nationale. 5 pays ont déjà signé ces accords, le Portugal, l'Italie et pour l'arabe donc le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Les négociations en revanche sont toujours en cours avec l'Algérie. 85 000 élèves suivaient ces enseignements l'an dernier.
Et quand le gouvernement dit vouloir réduire le pouvoir du religieux, c'est quoi? C'est grâce à ce dispositif-là qu'il veut le faire?
En tout cas, c'est un des moyens, enfin c'est ce qu'espère l'exécutif, c'est que si c'est plus facile d'apprendre l'arabe dans le cadre scolaire, eh bien les familles seront moins tentées de se tourner vers des cours prosélytes dispensés par des associations ou dans des mosquées. Mais comment va se traduire cette volonté d'enseigner davantage l'arabe? Est-ce qu'il y aura, par exemple, plus de places au concours pour les professeurs d'arabe cette année? Plus d'établissements qui proposeront l'option à la rentrée prochaine? Quelques jours après les annonces présidentielles, c'est encore trop tôt pour vous répondre.
Et là, je dis choukran.
Afouan.
Viens. Décryptage du soir.
C'est Laurent Wauquiez.
Je vais aller en vacances une fois là-bas.
L'enseignement de l'arabe à l'école de décryptage, qui est Céline Landreau dans On défait le monde. Vous restez là, c'est la première info pour briller au dîner qui arrive. Et figurez-vous que tout arrive puisque Brice Dugénie va nous parler tennis.
Oh là là.
RTL Soir, On défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
À 19h30, c'est la première ce soir. C'est donc Brice Dugénie qui vous parle tennis.
Oui, en fait, moi je voulais vous parler du bras gauche le plus célèbre de la planète tennis. C'est celui, évidemment, de Raphaël Nadal. On l'a encore vu tout à l'heure se qualifier pour sa 13e finale à Roland-Garros. Un bras gauche qui sert fort, qui trouve des angles incroyables. Et pourtant, sachez que Rafael Nadal, le propriétaire du bras gauche qui vaut des millions, eh bien, il est droitier. Oui, Rafael Nadal est droitier. Il écrit de la main droite, il cuisine de la main droite, il mange de la main droite. En fait, Rafael Nadal n'est gaucher que pour jouer au tennis. L'explication, c'est que petit, il jouait tous les coups des deux mains, vous savez, comme Fabrice Santoro avant, pour ceux qui se souviennent. Et vers 10 ans, son oncle Tony Nadal lui a dit « Si tu veux être un grand joueur, tu dois choisir. » Et c'est avec le bras gauche que Rafael Nadal est plus à l'aise, plus précis, plus puissant. Et donc, alors qu'il fait tout le reste de la main droite, eh bien, il fera une carrière avec son bras gauche.
Wow, c'est dingue, cette info pour Brio.
Vous avez scié Stéphane Carpentier, il s'en remet pas alors.
Moi, j'ai appris quelque chose.
Je pensais que Stéphane, vous le saviez, vous, le tennis.
Désolé. Jean-Michel, bon, j'ai gagné. Alors, aussi, il le savait ça, Jean-Michel, ou pas?
Je le savais, mais c'est son bras droit qui coûte le plus cher. Vous savez pourquoi?
Non.
Allez-y. Il a une montre à 900 000 euros.
Oui, exact.
Ah oui, d'accord, tout de suite. Mais nous, c'est la beauté du geste, Jean-Michel. C'est pas le prix de sa Rolex.
J'avais bien compris. Toujours est-il que pour l'instant, dans sa demi-finale face à Tsitsipas, il mène 6-3 et il sert pour égaliser à un jeu partout. Il a eu une balle de break, il l'a convertie, alors que Tsitsipas en a eu 7 et qu'il n'est pas parvenu à prendre le service de son adversaire. Voilà toute la différence. Il est fort, Djokovic, du bras droit, lui.
Voilà, c'est dit. 19h31. Merci Jean-Michel, on vous retrouve tout à l'heure. Bravo Brice quand même, vous m'avez scotché avec tout ça.
Allez,
merci
beaucoup. Dur.
Allume la lumière.
Le moment où un expert éclaire une actualité de la semaine, Cyprien.
Et cette semaine, c'était la grande distribution des prix Nobel, avec notamment en chimie. Vive la France, la récompense d'une Française, Emmanuelle Charpentier.
Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, Cyprien, le prix Nobel de la paix a été attribué au Programme alimentaire mondial des Nations Unies.
Ouais, merci Céline, toujours sur l'info.
Je vous en prie.
Bref, mais un Nobel pour de bon.
À part ça, tout le monde le savait, je crois.
Oui, mais bon, c'est bien de le rappeler. À part la reconnaissance, ça change quoi dans la vie d'une chercheuse? Eh bien, pour allumer la lumière sur ce sujet, on a la chance et l'honneur d'accueillir un vrai prix Nobel, si, si. Bonsoir Jules Hoffmann.
Bonjour monsieur.
Prix Nobel de physiologie et de médecine en 2011 pour vos recherches sur l'immunité innée des insectes. Concrètement, dans votre parcours de chercheur, pour vous, ça a changé quoi le Nobel?
Bon, commençons pour le plus simple. Personnellement, pour votre famille, vos amis, vos collaborateurs, c'est évidemment une grande joie. Mais surtout la chose importante, à mon avis, c'est que ça crédibilise beaucoup vos choix, les choix de vos collaborateurs. Et quand j'ai commencé ma thèse ici à Strasbourg, dans un laboratoire, beaucoup de gens me disaient « Mais pourquoi tu fais une chose pareille? Mais ça n'a aucun intérêt, c'est pour les collectionneurs de papillons, etc. » Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le prix Nobel, je vous précise qu'on n'est jamais candidat au prix Nobel. Hein. Vous ne savez pas comment les choses se passent. Nous non plus, je ne sais toujours pas par qui j'ai été proposé. Et donc à ce moment-là, les gens prennent ça beaucoup plus au sérieux. D'ailleurs, c'est à double tranchant, parce que il faut que vous fassiez très attention à ce que vous dites. Il y a 15 jours, j'étais à Milan pour la semaine de la santé d'un journal que vous connaissez peut-être, La Repubblica. Si. J'ai donné une interview dans laquelle, à la fin, je disais un des intérêts du Covid actuellement, c'était que la science était très, très bien équipée pour aller au fond des choses et que ça permettrait certainement aussi un jour d'avancer pour la recherche de cancer. Et c'était vraiment... J'ai pu relire l'article, mais pas le titre. Et le titre était, voilà, prix Nobel Hoffman qui dit que les recherches sur le cancer évoluent rapidement grâce au Covid, etc. Vous voyez, donc il faut faire très attention. Subitement, pour le grand public, hein, ce que vous dites prend une certaine résonance. Les gens prennent ça beaucoup plus au sérieux. Mais aussi, vous pouvez développer vos idées. Notamment, moi, je suis un défendeur absolu de la vaccination. Et si vous le dites avec le prix Nobel, subitement, vous avez une écoute qui peut être utile si vous défendez des causes que vous estimez importantes. Vous ne pouvez pas, dans une conférence, dire une bêtise et voir les gens dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dû vieillir ?» etc. Il y a ce stand-up, comme disent les Anglais.
Le Nobel, c'est une rentrée d'argent conséquente. Ça fait marcher la planche à billets. Les fonds arrivent de tous les côtés.
Cette influence a permis que l'université et le CNRS et la région Alsace, etc., nous ont soutenus et nous ont payé un insectarium qui est un grand institut dans lequel on peut élever des insectes, des moustiques notamment. Cet ensemble a coûté quelque chose comme 10 millions.
Et bon, c'est un beau cadeau de Nobel quand même.
Oui, absolument. On n'a pas vu les célébrations qui ont été faites autour et puis ça n'aurait pas pu se faire comme ça sans le prix Nobel, c'est vrai.
Eh ben merci beaucoup Jules Hoffmann, en tout cas c'était un plaisir de parler avec un prix Nobel, surtout que dans l'équipe on n'a pas, hein, ça nous arrive
pas
souvent.
Non, pas encore.
Donc merci beaucoup Jules Hoffmann.
Je vous en prie monsieur, merci. Merci à vous.
À suivre dans On défait le monde.
L'info pour briller de Laurent Tessier. Vous découvrirez qui est le grand perdant, le loser de la semaine de Céline Landreau. Il est 19h35.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Il va falloir être des champions, hein, parce que Brice Eugénie est bien parti, autant vous le dire tout de suite. C'est la deuxième info pour briller au dîner ce soir.
À votre place, moi je m'inquiéterais.
Et c'est Laurent Tessier qui s'en charge.
Oui, on a beaucoup parlé cette semaine du projet de loi sur le bien-être animal. Et puisque j'adore parler d'amour en ce moment, rappelez-vous, c'est pendant cette saison l'automne que nos hormones explosent. Ce soir, je veux parler à tous les amoureux des chiens. Oui, nos amis nous comprennent parfaitement quand nous leur parlons. J'ai une preuve avec moi ce soir. Selon une étude très sérieuse, leur rythme cardiaque augmente en moyenne de 46% quand on leur dit « je t'aime ». Et en plus, sachez-le, cette réaction...
Attends, le chien comprend quand tu lui dis « je t'aime ».
Et oui, Cyprien Seigné. Et la réaction est en plus réciproque. Notre fréquence augmente aussi, hein, c'est moins important, de 10% lorsque nous apercevons notre chien, Brice Eugénie. Donc voilà, le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Donc ce soir, à Marley, Beethoven, Buddy, Snoopy, Nala, Simba, Lucky, dites-leur « je t'aime », tout le monde sera comblé.
Surtout votre compagne ou votre compagnon.
Je suis même pas sûr que ça marche encore. Bon, bref.
Histoire de chien, donc, dans cette deuxième info. Et c'est pour beau, briller d'amour, au dîner ce soir, 19h39.
RTL. Le loser de la semaine.
Et c'est le moment où, avec un certain plaisir, faut bien le reconnaître, Céline met en avant celui ou celle qui n'a pas passé une bonne semaine du tout. Et ce soir, Céline, c'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, hein, qui a attiré votre attention.
Oui, Barbara Pompili qui décroche certainement le titre de la plus grosse couleuvre avalée cette semaine. La ministre de la Transition écologique doit en effet faire face à cela.
Jamais un texte n'aura autant crispé la majorité. L'Assemblée a définitivement adopté le retour des néonicotinoïdes.
Les producteurs de betteraves vont pouvoir de nouveau introduire les néonicotinoïdes, pesticides très décriés notamment par les défenseurs des abeilles.
Et qui fait partie des défenseurs des abeilles? Bah, la ministre de la Transition écologique, bien sûr, Barbara Pompili, qui il y a 4 ans, alors qu'elle était secrétaire d'État sous François Hollande, défendait à l'Assemblée nationale un texte pour interdire ces néonicotinoïdes.
Les néonicotinoïdes sont extrêmement dangereux. Ils sont dangereux pour les abeilles, mais bien au-delà des abeilles, ils sont dangereux pour notre santé, ils sont dangereux pour notre environnement. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Très virulente Barbara Pompili, et à l'époque elle était claire, hein, il fallait les interdire dès 2020, et surtout sans exception.
Si on commence à dire, on interdit là où il y a des alternatives, mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps, on sait très bien que ça, c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certaines néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits. Ce que je redoute le plus, parce que je connais trop ces sujets-là, ça fait trop longtemps que je me bats pour ces sujets-là, c'est de prendre des décisions qui seraient très jolies sur le papier, mais qui ne seraient pas applicables. Et ça, ce n'est pas possible. Ce serait vraiment mentir à la population, mais ce ne serait pas responsable.
Et là, on doit quand même saluer la clairvoyance de la secrétaire d'État d'alors, qui sentait déjà les problèmes arriver. Alors quand 4 ans plus tard, devenue ministre, elle doit justifier la décision gouvernementale, forcément c'est un peu difficile, ici sur France Info.
On va pas les réintroduire, arrêtez de faire peur aux gens. On a juste quelques dérogations ultra ciblées sur une filière. C'est juste que là, on se donne un tout petit peu de temps sur un point.
Et ça marche toujours, le pipo. Toujours. Et comme décidément cette semaine est compliquée, la ministre qui défendait le texte contre la maltraitance animale a dû affronter un nouvel obstacle, comme elle dit. Les débats sur l'IVG ont duré plus longtemps que prévu, trop longtemps, et les députés n'ont pas pu voter la fin progressive des spectacles d'animaux sauvages dans les cirques et des numéros de dauphins dans les parcs.
Très dur la semaine pour la ministre de la Transition écologique, merci. Titre de loser de la semaine attribué par Céline Landreau.
Qui c'est qui vous a appris le coup de la flûte, Céline?
Mon maître, Cyprien Simon.
Allez, comme c'est gentil. Augmentation.
Un cadeau.
C'est bien, Céline. Ah bah, un cadeau pour Céline, d'abord, merci. Ah. Et évidemment, l'instant que vous attendez tous.
Son cadeau, il est nul. Et maman, il est
bourré,
son cadeau.
Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ces manières, là? Les enfants sont formidables. Non, évidemment que le cadeau est superbe, parce que désormais, nous avons...
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Toujours des cadeaux remarquables dans la haute de Grégory Caranoni, réalisateur et Monsieur Cadeau de cette émission. Alors... on a quoi en magasin ce soir? Faites-nous rêver, Greg.
2 jours au Futuroscope pour 4 personnes. Ça comprend les entrées au parc pour 2 jours. Une nuit dans un hôtel 3 étoiles sur le site du Futuroscope en chambre quadruple.
Ah bah oui, ils sont 4.
Bien sûr.
Oui.
Ça aurait pu être une chambre de 2, enfin.
Une chambre simple pour 4 personnes. Merci du cadeau, monsieur cadeau.
Attendez, on peut y aller en famille, entre amis?
Merci.
Non?
Oui, bien sûr. Hein, bien sûr.
Vous aurez aussi les petits déjeuners, Brice. L'accès à l'aquaféerie nocturne. C'est un spectacle magnifique à l'extérieur. Le Futuroscope, c'est 40 attractions. Parmi elles, Objectif Mars. C'est la toute nouvelle attraction grâce à laquelle vous deviendrez astronaute, tout simplement.
Ouais.
Puis on a tous rêvé de voler.
Oui.
En embarquant dans l'extraordinaire voyage, vous traverserez les plus beaux endroits de la planète, les pieds dans le vide. Le Sahara, Dubaï, l'Himalaya.
Voilà. Bah, ça a l'air super. Merci, monsieur.
Ça donne un peu le vertige, non?
Ouais, mais c'est bien. C'est le vertige des cadeaux, quoi. Mais alors, pour gagner, il faut répondre à cette question de culture générale. On parlait des prix Nobel tout à l'heure. Alors, parmi ces scientifiques, une seule a obtenu le prix Nobel. Une seule, laquelle? A, Olivier Véran. B, Didier Raoult. Ou C, Marie Curie. Qui a obtenu un prix Nobel? Olivier Véran, Didier Raoult, Marie Curie? Vous avez la bonne réponse pour vous envoler au Futuroscope. 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants. Et on passera un coup de fil aux gagnants en fin d'émission.
Question bien pourrie pour un super cadeau. Hein.
Ah, elle est bien.
Hein. Ah, formidable.
C'est question scientifique, vous voyez, comme le Futuroscope, c'est un peu scientifique.
J'avais compris, merci. Voilà. 32-10, 3-2-1-0, bonne chance à vous tous. 19h43.
On défait le monde sur RTL.
19h43, c'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle le moins aujourd'hui.
Souvenez-vous, c'était en 2014. Dans la nuit du 14 au 15 avril, 276 lycéennes étaient enlevées par les islamistes de Boko Haram dans la ville de Chibok au Nigeria. Un rapt qui avait soulevé une vague d'indignation à l'échelle planétaire sous le hashtag Bring Back Our Girls notamment.
Ces lycéennes enlevées par le chef de Boko Haram.
La mobilisation pour la libération des studentesses nigérianes.
Boko Haram Islamist militants.
Nearly 300 schoolgirls in Nigeria.
276 niñas en Nigeria.
Manifestation de soutien, Michelle Obama, première dame des États-Unis, posant avec le message Bring back our girls. Bon alors Brice, plus de 6 ans plus tard, elles ont été libérées ces lycéennes ou pas?
Alors non, 112 d'entre elles n'ont jamais été retrouvées. Au moment de l'enlèvement, en fait, ce jour d'avril 2014 dont vous parliez, 57 ont réussi à prendre la fuite dans la confusion. Puis, au fil des années et de différentes négociations avec les ravisseurs, 107 ont été relâchées. Il en reste donc toujours aujourd'hui 112. Introuvable. Alors ce décompte assez précis, on le doit à l'association nigériane Bring Back Our Girls. Aïcha Yesufu milite au sein de cette organisation à Abuja, la capitale du Nigeria, depuis le début. Et voilà ce qu'elle sait de celles qui ne sont jamais revenues.
Non, hélas, nous ne savons pas où elles sont exactement. Tout ce que nous savons, c'est que certaines sont mortes et les autres sont toujours entre les mains des terroristes. Nous ne savons pas où elles sont, nous savons juste qu'elles sont toujours retenues.
Et les témoignages de celles qui ont réussi à s'évader laissent imaginer évidemment que pour celles qui sont encore retenues, le quotidien est terrible.
Et Brice, pour celles qui sont rentrées?
Le retour à la vie d'avant a été impossible après des mois, voire des années aux côtés des terroristes. Donc socialement, psychologiquement, c'était très difficile. Certaines sont revenues avec un enfant ou plusieurs, car mariées de force ou violées par leurs ravisseurs. D'autres ont tenté de reprendre leurs études là où elles les avaient arrêtées, mais sans succès. Et selon les ONG qui les suivent, l'État nigérian n'a pas fait grand-chose pour les aider, préférant plutôt nier cette réalité des enlèvements dans ce pays.
J'en parlais dans l'introduction, Brice, cette mobilisation incroyable. Ça les a aidés, ça ou pas?
Alors évidemment, la mobilisation, la médiatisation mondiale, elle a eu des effets bénéfiques, mais ça a eu aussi eu des effets néfastes. Car au Nigeria, certaines personnes ont développé contre ces jeunes femmes enlevées à Chibok une sorte de jalousie dans ce pays où les enlèvements sont nombreux. Écoutez l'explication d'Aïcha Yesufu.
Quand certaines personnes évoquent les filles de Chibok, il y a du ressentiment. Ils disent, et les autres, que fait-on pour les autres? Les filles de Chibok, on connaît leur nom, leurs photos. On sait combien sont revenus, combien sont encore retenus, mais pour les autres personnes enlevées ailleurs, on ne sait rien.
Vous voyez, c'est une sorte de jalousie un peu macabre qui aujourd'hui se retourne parfois contre elle.
On doit comprendre, Brice, quoi, que des enlèvements comme celui-là, il y en a eu d'autres depuis?
Oui, le dernier enlèvement de masse, il a eu lieu en 2018 dans la ville de Dapchi. 110 lycéennes ont été enlevées. Alors un mois plus tard, plus d'une centaine étaient libérées, mais les quelques-unes qui ne sont pas revenues ne sont jamais réapparues. La méthode était exactement la même qu'à Chibok, mais pas la médiatisation. Et puis il faut quand même dire et rappeler qu'au Nigeria, dans certaines régions, les enlèvements sont fréquents, quasi quotidiens. Mais là, à chaque fois, on parle de quelques personnes dont ça ne fait pas la une des journaux, même pas d'ailleurs au Nigeria.
Et 6 ans après cette mobilisation, le mouvement Bring Back Our Girls, ça existe encore ou pas?
Alors sur les réseaux sociaux mondiaux, moins qu'à l'époque, mais au Nigeria, écoutez Aïcha Yesufu.
Il y a toujours une mobilisation. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne veut pas en parler que les citoyens vont abandonner. Nous sortons tous les jours. Tous les jours. Pendant le confinement, nous avons arrêté, mais nous avons repris nos manifestations. Donc oui, il se passe toujours des choses au sein du mouvement Bring Back Our Girls.
tous les jours depuis plus de 6 ans. Donc Aïcha et ses amis s'accrochent toujours à cet espoir de revoir peut-être un jour les lycéennes qui manquent encore aujourd'hui à l'appel.
Voilà le billet retour très intéressant de ce vendredi avec Brice Dugénie, donc le grand reporter du service étranger de RTL, membre de toute l'équipe de On défait le monde. C'est l'épisode 7, c'est la saison 2. Il nous reste 10 minutes ensemble. Il y a plein de choses à vous raconter juste après ceci. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Le tout à 19h51. Tout à l'heure, il y a eu le gauchier droitier Raphaël Nadal avec Brice Dugénie. C'était pas mal. Il y a eu l'amour des animaux.
C'était très très bien, moi, je crois.
Tessier. Eh oui, c'est beau ça.
Et la troisième info pour briller au dîner, c'est Cyprien Cini.
Oh,
le Marseillais au hasard.
Toute ma jeunesse au stade
facile.
De Rome.
Et okay. Ah bon, on l'apprend ça.
Guitariste
ah,
de génie et créateur du groupe éponyme nous a quitté cette semaine. Et alors, comme toutes les rockstars, pendant leur tournée, le groupe avait des demandes parfois farfelues, dont une vraiment très spéciale. Ils exigeaient dans leur contrat qu'à chaque fois dans les loges, il y ait des paquets de M&M's. Mais alors attention, surtout pas des M&M's marrons. Toutes les couleurs sauf les marrons. Drôle d'exigence, me direz-vous, sauf qu'en fait, c'était une ruse utilisée par le groupe pour être sûr que les promoteurs de concerts avaient bien lu toutes les consignes et les contrats jusqu'au bout.
C'est génial.
Oh bah, n'insistez pas. Merci, Grégory.
C'est vrai que c'est sympa quand même.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ah, vous avez été bon ce soir. Hein.
Ouais.
Ouais.
Surtout quand on sait que c'est moi qui lui ai dit l'histoire de Nadal avec son bras droit.
Oh, oh, c'est petit. Oh, c'est petit. Et après, il vient vanter le travail collectif quand il est en galère. C'est minable.
C'est Monsieur Cadeau ce soir qui va trancher pour le prix de la meilleure info pour
une fois.
Il a 5 minutes pour réfléchir. Évidemment, il est 19h50.
Mais c'est tout réfléchi, non ?
Marche ou rêve ?
Il y a de l'écho presque. C'est votre moment quand vous nous racontez vos projets, vos envies, vos initiatives.
Oui, on les met en valeur et ce soir, Laurent, on va être bien dans nos baskets. Hein.
Ouais, des chaussures éco... Bien joué. Des chaussures éco-responsables fabriquées à base de résidus de raisin et d'autres matières recyclées. La marque s'appelle Zeta et sa créatrice, Laure Babin, a fait le trajet depuis Bordeaux pour être avec nous en studio.
Basket.
En plus, bonsoir Laure.
Bonsoir.
Vous avez 23 ans, vous êtes tout juste diplômée d'un master de business développement. Comment vous est venue cette idée de lancer votre propre marque de chaussures zéro déchet?
J'ai pas eu réellement de déclic par rapport à d'autres porteurs de projets. Moi, l'envie d'entreprendre, ça fait plusieurs années qu'elle est bien pressante. Et pourquoi les baskets? J'en ai toujours porté, mais pourtant, je me suis jamais vraiment interrogée sur les problèmes que ça pouvait soulever d'un point de vue environnemental ou social. Et en m'y penchant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que c'était fabriqué à l'autre bout du monde, généralement en Asie, à partir de matériaux très polluants comme du plastique, du cuir ou du coton. Et je me suis demandé comment, moi, à mon échelle, j'étais capable d'en faire un produit qui soit résolument écologique et porteur de sens.
Quelle est la composition de cette basket?
Alors du coup, l'élément principal, c'est du cuir de raisin, qui est fabriqué à partir des déchets de la production vinicole, mais aussi des bouteilles en plastique repêchées en Méditerranée, des chutes de liège recyclées, du caoutchouc recyclé et du latex revalorisé.
Et alors le raisin, là, ça sert à quoi dans la basket?
Tu
réalises
pas le truc, là.
C'est où dans la chaussure, votre
truc? En fait, c'est tous les déchets de la production vinicole, tout ce qui est marc de raisin, pépins, peau, qui vont être récupérés, broyés en fines particules, réintégrés à d'autres matières recyclées, qui vont être étalées pour en faire une pâte qui deviendra du cuir, voilà, à l'aspect grainé comme du cuir traditionnel.
Ah ouais.
Et une question toute bête, pourquoi ça s'appelle Zeta?
Ouais. Zeta, c'est le dérivé de la fonction zéro en mathématiques.
Bah évidemment. Ah bah.
Ils sont nuls en maths.
Je suis insupportable
ce soir.
Il n'y a pas de Nobel ce soir.
Et donc pour basket, zéro déchet.
Ouais. La conception, pardon Laurent, ça se fait où? C'est en France?
C'est au Portugal. C'est au nord du Portugal, dans un petit atelier familial qui fabrique tout à la main, de façon artisanale. Voilà, l'humain, c'était aussi un critère hyper important pour moi et je voulais que les personnes travaillent dans de bonnes conditions.
C'est moins cher au Portugal, j'imagine.
Oui, la main de vraiment zéro.
Elles ont un défaut, vos chaussures? Excusez-moi, au moins un. Est-ce qu'elles ont un défaut?
Un défaut?
Ouais. C'est la question piège de Brice.
C'est normal.
On peut toujours perfectionner les choses, on peut toujours aller encore plus loin, notamment sur le transport. Pour l'instant, on, de Porto à Bordeaux, c'est du transport routier. On va essayer de faire les choses par train, ça sera, au niveau de l'empreinte carbone, ce sera moindre. On a toujours des moyens de perfectionner les choses.
Et ce qui est extra quand même dans cette histoire, c'est que vous avez fait un financement participatif sur Internet. Et donc vous aviez besoin, d'après ce que j'ai compris, que des gens viennent investir. Et ça a explosé. Les compteurs, c'est ça?
On avait un objectif initial de 100 paires pour lancer la production.
Ouais.
On a lancé ça il y a un mois, la campagne se finit ce soir. Et donc là, on a atteint 2500 paires. Et je peux le dire, ça y est, on est la campagne la plus financée sur Ulule en mode.
Alors que l'objectif c'était 100, vous êtes arrivé à 2000.
Ouais.
Et comment vous expliquez le phénomène? À part un gros carnet d'adresses, je sais pas, vous connaissez peut-être plein de gens.
Pas du tout. J'ai un peu travaillé dans mon coin pendant un an et c'était un peu un pari de me dire voilà, je vais lancer la campagne début septembre, on va voir si ça marche. Et les gens ont été super sensibles au projet. Je pense que la situation actuelle aussi fait que voilà, on a besoin de repenser nos habitudes de consommation. Donc c'est tombé pile au bon moment.
On va parler argent. Laure, combien ça coûte une paire de chaussures?
À l'heure actuelle, c'est en prix de 109 euros sur Ulule.
D'accord.
N'importe laquelle.
Ça va. 109.
Ouais.
D'accord. Oh, j'adore ce projet.
C'est magnifique.
Ouais, bravo.
C'est dans l'air du temps en plus.
On rappelle l'essentiel, Laurent. Donc, c'est Zeta.
La marque Zeta, exactement.
Dérivée de la fonction zéro en maths. Hein.
Ah, ouais, ouais, ça, vous avez bien retenu. Vous voyez, c'était une info pour briller, même cadeau.
Et on l'a pas dit, mais il y a plusieurs coloris. Hein,
exactement.
C'est une base blanche, couleurs. Plusieurs coloris. Bah oui, mais l'aspect mode, c'est important, Stéphane. Pardon, mais si les auditeurs.
Il y a blanc, rouge et rosé. Moi, je suis resté sur le vin.
Il y a du bleu marine aussi, de mémoire.
Comment ?
Du bleu marine aussi, de mémoire.
Ouais, du bleu marine et une toute blanche, ouais.
Et donc voilà, si vous avez des projets un peu fous, un peu incroyables, comme ça, n'hésitez pas à contacter.
N'hésitez pas à nous contacter.
Merci d'être passé par chez
nous.
C'est un plaisir, évidemment. On a Martine qui est en ligne depuis le Val d'Oise. Bonsoir, Martine.
Bonsoir à tous.
Alors
bonsoir.
Martine, on répète la question du jeu pour ce voyage au Futuroscope. Qui a gagné le prix Nobel une fois dans sa vie? Marie Curie, Didier Raoult ou Olivier Véran?
Marie Curie.
Bravo Martine.
Oui.
Vous savez qui vous allez partir?
Ah oui, oui, avec mes petits-enfants, Gaël et Loïc.
Ouais, génial, super, on les embrasse, Gaël et Loïc.
Ça va être super.
Ah oui. Ils sont adorables.
Ah bah on n'en doutait pas.
Non, ils sont pénibles. Voilà.
Et merci beaucoup.
Hein. Bon, on est ravis de vous offrir ça en tous les cas. Georges Benadi, notre monsieur cadeau. Il est là, monsieur cadeau, Greg?
Oui, alors, j'ai adoré ses baskets. J'ai adoré ses baskets.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Ouais,
vous savez ce qu'on va faire? On va ajouter une paire de baskets dans la valise RTL.
Ah, oh, génial,
bah,
trop bien.
Et on peut jouer, nous, pour la valise ou pas?
Bah, non,
mais non. On l'ajoute maintenant ou il faut
on l'ajoute maintenant.
Ok, donc j'ajoute. Non, il faut faire la phrase. Wow, j'ajoute. La valise RTL.
Ça, c'est un jour historique.
Une paire de baskets Zeta.
C'est extraordinaire.
La basket zéro déchet.
Formidable.
Il a toujours rêvé de faire ça. C'est
ouais.
Aussi.
Ah, bah oui. Je travaille RTL que pour ça.
Imagine pour mettre une basket en
Greg, la meilleure info pour briller au dîner ce
c'était
soir.
C'était Brice du Génie, mais du coup, par ricochet, Cyprien signé aussi.
Quoi, c'était pas les Ménènes?
Oh.
C'est
pas
les chiens. Super. Non, mais c'est vrai que. Non, non, mais Brice, c'était super. Pour une fois qu'il gagne.
Merci, Greg.
Donc Nadal est droitier, mais il joue du tennis avec la main gauche.
C'est ça.
Il joue au tennis, on dit.
Ouais,
je crois.
Ouais, bon, il joue du tennis.
Là, hein, vous restez là-dessus,
c'était la phrase du soir.
On revient. Il joue du stylo. C'est parce que je suis bilingue.
Ça vous dit qu'on rentre dans thème?
On arrête là-dessus, on se dit à vendredi prochain.
À vendredi,
bien sûr.
À la semaine prochaine.
Ciao.
À vendredi prochain.